On avait commencé au XVIIe siècle, la dernière fois, la dernière rencontre qu'on avait eue sur l'histoire de l'Église. Et on était arrivé à la veille donc, de la révocation de l'édit de Nantes. La révocation de l'édit de Nantes n'est pas, comment dirais-je, quelque chose qui vient comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. En fin de compte, comme le remarquaient nombre d'historiens, l'édit de Nantes contenait en lui-même le processus de sa propre révocation. En effet, dans le préambule, il était stipulé que l'édit de Nantes était donné parce que, il y avait un état de fait, et que cet état de fait, c'était qu'il y avait des catholiques et des protestants en France, que pour l'heure, il n'était pas possible de résoudre les problèmes entre catholiques et protestants, et qu'en attendant le temps où il plairait à Dieu de résoudre ce problème, de résorber en quelque sorte ce que l'Église catholique considérait comme un schisme, l'édit de Nantes était donné. Donc, c'était quelque chose qui était accordé en attendant. En attendant quoi? Donc, un retour, disons les choses crûment, un retour des protestants au catholicisme. Donc, il était inévitable qu'un jour ou l'autre, il y ait une remise en question de cet édit de Nantes. D'autre part, il est bien évident que dans la mesure où le catholicisme restait majoritaire, où le catholicisme avait entre les mains tous les leviers de commande, il en vient petit à petit à grignoter les différentes libertés qui étaient accordées aux protestants par l'édit de Nantes. L'édit de Nantes était, comme tous les textes législatifs, un texte qui pouvait être interprété d'une manière laxiste, ou bien au contraire d'une manière restrictive, et il était donc possible d'en faire une lecture restrictive et petit à petit de renier les libertés qui étaient ainsi accordées aux protestants. D'autre part, le mot-clé de l'édit de Nantes, c'était tolérance. Tolérance, au sens étymologique du terme, ce qui fait d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, nombre de protestants n'aiment pas le mot tolérance. C'est du mot « tolérer » donc en latin, « supporter »,« souffrir », n'est-ce pas ? Ça veut dire « on souffrait, on supportait un mal inévitable ». Mais à partir du moment où l'on peut éviter ce mal, il est bien évident qu'on en prend les moyens. Or, l'édit de tolérance avait pour but de normaliser les choses, donc d'uniformiser. Et dès le départ, on s'est mis à agir d'une manière impersonnelle et en même temps la plus formaliste qui soit pour, en fin de compte, obtenir une domination, n'est-ce pas, de la religion catholique sur la religion protestante. Il est à remarquer aussi qu'il y a un autre élément, un autre facteur qui a joué énormément vers la révocation de l'édit de Nantes, c'est l'effondrement de l'Espagne en tant que première puissance mondiale. Depuis 1492, la découverte de l'Amérique, l'Espagne était devenue la première puissance mondiale. L'Empire sur les terres duquel le soleil ne se couchait jamais. Et grâce aux richesses d'Amérique, d'une part, grâce à ses possessions diverses en Flandre, en Italie et ailleurs, l'Espagne avait accumulé une puissance considérable. Cette puissance va connaître un premier accroc lors de la défaite de l'invincible Armada, sous le règne de Philippe II, qui marquera le début de la décadence espagnole. Maintenant, la puissance espagnole avait été aussi acquise à un autre prix, celui de l'uniformisation. La puissance espagnole avait pour cause, certes, la découverte de l'Amérique et donc l'afflux des richesses qui en avaient découlé, mais également un autre facteur qui avait eu lieu la même année, l'expulsion des Maures d'Espagne, la reconquête, la réunification de l'Empire de l'Espagne, du Royaume d'Espagne. Il y avait eu une confusion très forte, voulue, entretenue, n'est-ce pas, entre le nationalisme espagnol et la religion. L'époque moderne, le temps moderne, qui commence donc avec les grandes découvertes, marque en effet l'apparition d'un phénomène nouveau dans l'histoire, la naissance d'un sentiment national très fort. Jusqu'alors, ce sentiment n'était pas très développé, même dans des États aussi centralisés que l'était par exemple la France. Disons que le sentiment était beaucoup plus fixé sur la région, sur Languedoc, Bretagne, l'Île-de-France, etc. Mais on se sentait, si vous voulez, davantage languedocien, breton ou autre, n'est-ce pas, qu'on se sentait français. Or, à partir des grandes découvertes, à partir de l'époque moderne, de la Renaissance, ce sera une des conséquences de la Renaissance, que cette apparition du sentiment national dans les États, donc un nationalisme qui va avoir des conséquences extrêmement négatives, parce que il va entraîner des conflits extrêmement, je dirais, quasi religieux. Et or, en Espagne, ce sentiment national est cimenté par la religion. Les rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, avaient voulu utiliser la religion catholique pour faire le ciment national de l'Espagne, d'un pays qui était quand même assez disparate, il faut bien le reconnaître, qui comprenait ensuite d'importantes minorités arabes, bien entendu, musulmanes et juives, n'est-ce pas ? Bon, la minorité juive, on s'en occupe en l'expulsant, et le reste se convertit de force. On attend un peu plus pour expulser les Maures parce qu'on craint des représailles de la part des États musulmans, chose qu'on n'a pas à craindre du côté juif, puisqu'il n'y a aucun État juif pour effectuer des représailles. Mais dès qu'on se sent assez fort, n'est-ce pas ? On exécute la même manœuvre en ce qui concerne les Maures, ou bien ils se convertissent au catholicisme, ou bien, eh bien, ils prennent leur bagage et ils vont ailleurs. Donc, unification de l'Espagne. Puis, à l'époque qui nous intéresse, au début du XVIIe siècle, après la défaite de l'invincible Armada, après le règne de Philippe II, nous arrivons à une période de décadence de l'Espagne. Or, il y a un État qui entend bien succéder à l'Espagne en tant que première puissance mondiale, c'est la France. Et les chefs de l'État français comprennent que pour pouvoir succéder à l'Espagne comme première puissance mondiale, eh bien, il faut en quelque sorte prendre les mêmes moyens et obtenir, n'est-ce pas, l'unité nationale à tout prix, aussi d'un État qui, à l'époque, est encore un royaume très disparate. Encore une fois, le sentiment provincial est très fort, auquel s'ajoute la présence d'une importante minorité protestante, qui représente aussi un facteur hétérogène dans la société française. Et si l'on veut obtenir donc la première place en Europe et dans le monde, n'est-ce pas, y compris d'ailleurs dans une expansion coloniale qui se développe à cette période-là, alors, eh bien, il faut aussi, comme l'Espagne avait fait, obtenir, n'est-ce pas, une unification religieuse, y compris par la force au besoin. Et alors va se reproduire en France ce qui s'est produit un siècle et demi plus tôt en Espagne. Avec finalement les mêmes moyens, les mêmes méthodes, et on peut dire aussi d'une certaine manière les mêmes résultats. Cette fois-ci, la persécution ne sera plus dirigée contre les Juifs, comme c'était le cas pour l'Espagne, mais va être dirigée contre les protestants. J'insiste énormément là-dessus parce que Il me semble que peu d'historiens ont fait le parallèle, justement, entre la persécution des Juifs d'Espagne et puis la persécution des protestants en France, notamment sous le règne de Louis XIV. Mais en fait, cela découle de la même démarche politico-religieuse et nationaliste dans le but d'assouvir un certain nombre d'ambitions nationales. Maintenant, il nous faut dire aussi que la Bretagne, puisque c'est une région qui nous touche de près forcément, va avoir à pâtir extrêmement durement de cette situation-là. Elle a été extrêmement touchée par les guerres de la Ligue à la fin du siècle précédent. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison que l'édit de Nantes est signé précisément à Nantes, c'est-à-dire non loin de l'endroit où ont eu lieu tant et tant de combats pendant les fameuses guerres de religion. En fait, cet édit de Nantes, nous l'avons vu, n'est qu'une tolérance temporaire, en attendant que Dieu éclaire ses sujets. En cela, l'édit de Nantes ne diffère en rien des édits qui l'ont précédé. Ça veut dire des édits qui ont mis fin aux guerres de religion qui ont précédé donc la dernière qui s'achève par l'édit de Nantes. Or, aucun des édits précédents n'a eu d'avenir, il a été remis en question extrêmement vite, et a priori, il n'y a aucune raison pour que l'édit de Nantes ait plus de succès que les précédents. Il va en avoir. Il va en avoir d'abord parce que il est publié par un roi qui lui-même est d'origine protestante et qui, par conséquent, va avoir davantage de soucis de tolérance vis-à-vis de ses sujets protestants que n'en ont eu les rois qui l'ont précédé. Et deuxièmement, parce que Henri IV va être un roi énergique qui va contrôler la situation beaucoup plus que ne l'avaient fait ses prédécesseurs. Enfin, le pays est exsangue, précisément comme conséquence des guerres de religion, et chacun aspire à souffler un peu, en sorte que ce n'est pas seulement le roi qui a le souci de voir cet édit entrer dans les faits, mais que, somme toute, l'homme de la rue, le Français moyen, est heureux que, d'une manière ou d'une autre, cela cesse. Et c'est ainsi que va s'instaurer dans les guerres de religion, n'est-ce pas, en France, ce qu'on pourrait appeler, somme toute, rien de plus qu'un armistice, ou encore, pour employer une expression moderne, une guerre froide va succéder à la guerre chaude. Et maintenant, ce qui est étonnant avec l'édit de Nantes, quand on voit quelle était la situation et quand on voit quel était l'état d'esprit dans lequel il a été publié, c'est qu'il n'ait pas été aboli plus tôt. Disons que, en soi, l'édit a été âprement discuté par les huguenots eux-mêmes. Dès le départ, les chefs huguenots étaient extrêmement, comment dirais-je, suspicieux vis-à-vis de l'édit de Nantes. Et ce n'est qu'avec beaucoup de réticence qu'ils ont fini par accepter cet édit qui, pour eux aussi, n'était finalement rien d'autre qu'un moindre mal. Mais qui exigeait, n'est-ce pas, de la part des protestants, ils en étaient conscients, une grande vigilance. Vous savez, c'est toujours comme ça que les choses se passent. Au départ, on est décidé à rester vigilant. Puis, avec le temps qui passe, eh bien, on baisse un peu la garde, la vigilance se relâche, et finalement, petit à petit, c'est la peau de chagrin qui se rétrécit. Et c'est ce qui s'est passé exactement pour l'édit de Nantes. Il faut dire qu'à cette époque-là, il y avait à peu près 1 million de protestants en France, soit plus que de nos jours, mais sur une population de 20 millions d'habitants seulement. Donc, la minorité protestante, proportionnellement, était relativement très importante. Alors, ici, il va y avoir tout un ensemble de données qui vont pousser petit à petit vers l'abolition de l'édit en question. Un des éléments, ça va être aussi une alliance avec l'Espagne qui se scelle par un mariage. Le fils héritier d'Henri IV, Louis, futur Louis XIII, n'est-ce pas, a été fiancé d'autorité, comme on fait dans ces cas-là, n'est-ce pas, non pas la vie aux intéressés, bien sûr, mariage politique uniquement. Il est fiancé d'autorité avec l'infante d'Espagne, Anne, dite d'Autriche. Et, bon, les Espagnols sont restés extrêmement intolérants. Et somme toute, Anne, qui, après la mort de son mari, n'est-ce pas, prendra aussi les choses en main, exercera la régence, eh bien, aura tendance, elle aussi, à pousser vers une restriction de plus en plus grande des droits des protestants. C'est ainsi, par exemple, que chaque article de l'édit est discuté. On pinaille sur la moindre virgule, la portée, n'est-ce pas, l'esprit de la loi est amoindri, voire carrément violé, sans vergogne. C'est bien une tolérance dont il s'agit et non pas une reconnaissance de plein droit, ce que demandaient en fait les protestants. Bon, dans l'Ouest, la plus importante place de sûreté, Niort, qui est à l'époque une grande place forte protestante, la seconde étant Saint-Mexant, qui est située à quelques kilomètres de Niort. Mais disons que dans l'Ouest, le Grand Ouest, la Jérusalem, pourrait-on dire, protestante, c'est Saumur. Saumur, dans laquelle existe une académie, faculté de théologie, si vous voulez, où sont formés les pasteurs français. Cette académie est extrêmement célèbre, extrêmement renommée, réputée, le niveau est extrêmement élevé. Et non seulement les pasteurs français sont formés à Saumur, mais également des pasteurs étrangers viennent y étudier, notamment ceux qui ont terminé un cycle dans une autre faculté de théologie et qui viennent à Saumur pour un complément d'études. La contre-attaque catholique va venir, bien évidemment, comme toujours dans pareil cas, par les congrégations, les ordres religieux et plus particulièrement l'ordre des Jésuites, dont c'était justement la vocation, nous l'avons vu, de lutter contre les hérésies, et en particulier l'hérésie protestante, en agissant sur le plan de l'instruction. Et c'est ainsi que, petit à petit, n'est-ce pas, on embrigade la population dans des écoles où cette population est de plus en plus endoctrinée dans la doctrine catholique et dans une doctrine catholique polémique, anti-protestante, justement dans le but de créer un courant d'opinion hostile au protestantisme en France qui prépare justement la révocation de l'édit. Le 17 octobre de la même année, l'édit de Nantes est étendu à la Navarre. Ça, on en a parlé la dernière fois, qui était jusqu'alors un État entièrement protestant, dont les congrégations religieuses catholiques avaient été chassées. Ce qui n'était d'ailleurs peut-être pas la meilleure chose qui a été faite, n'est-ce pas ? L'intolérance était donc d'un côté comme de l'autre. Et bon, on pourrait considérer qu'il était normal que dans le royaume de Navarre, les catholiques aient aussi le droit d'être, de vivre, de s'exprimer, de se manifester. Et c'est ainsi que le catholicisme récupère tous les biens qu'il avait abandonné en Navarre, monastère, église, domaine, etc. Mais à partir de là, le catholicisme va s'implanter et petit à petit, grignoter le protestantisme dans cette région du Midi. D'ailleurs, les prêtres auront tellement d'audace dans ce domaine-là qu'il y aura même en Navarre, n'est-ce pas, un certain nombre de révoltes armées et certains huguenots refuseront de déposer les armes. En fait, on peut dire que le catholicisme va se comporter en Navarre comme un véritable parti politique et la Navarre va être un peu, d'une certaine manière, un banc d'essai du catholicisme dans sa lutte contre l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, n'est-ce pas, on le glorifie souvent, à raison, jusqu'à un certain point, mais il ne faut pas non plus en faire un document, si vous voulez, de liberté de conscience au sens moderne du terme, n'est-ce pas ? En fait, il s'agit ici de ce qui était coutumier à la fin du Moyen-Âge, en Europe, n'est-ce pas, l'obtention de privilèges. Il y avait des privilèges, par exemple, corporatifs. Il y avait des privilèges qui étaient accordés à des villes. Il y avait des privilèges qui étaient accordés à des régions, n'est-ce pas, exemption d'impôts, de certaines taxes, possibilité de commercer dans certaines régions, bref, des privilèges. Et on peut dire d'une certaine manière que l'édit de Nantes accorde aux protestants un certain nombre de privilèges. Les privilèges, c'était des droits clairement définis et clairement reconnus. Par exemple, la possibilité de construire des temples à tel endroit, possibilité d'avoir des ministres officiellement reconnus, etc. Mais par exemple, n'est-ce pas, en dehors du protestantisme calviniste, aucune autre religion n'avait le droit de s'exprimer en France. Par exemple, les luthériens, si tant est qu'il y ait eu des luthériens à cette époque-là, mais si, par exemple, des luthériens avaient eu l'idée de venir s'établir, par exemple, à Paris ou bien en Navarre, ils n'en auraient pas eu le droit, n'est-ce pas ? Ils n'avaient pas ce privilège. Ou, par exemple, les anabaptistes. Les anabaptistes n'avaient absolument pas la possibilité de se réclamer l'édit de Nantes pour pouvoir vivre leur religion. Et les anabaptistes continuaient à être proscrits et bannis. Il faut dire qu'à cette période-là, en fin de compte, aucune des deux religions n'était tolérante au sens moderne du mot. Le catholicisme n'aurait pas été toléré au sens moderne du terme si le protestantisme avait été au pouvoir en France. D'ailleurs, l'exemple de la Navarre, que j'évoquais tout à l'heure, le montrait bien. Mais il y avait justement une imbrication très grande à cette période-là entre religion et finalement réalité sociale. Maintenant, c'était dû aussi au fait que chacun avait le sentiment d'être le dépositaire de, entre guillemets, la vraie religion. Et alors, n'est-ce pas, il y avait cette vision manichéenne, si nous sommes la vraie, donc les autres sont la fausse. C'était aussi simple que ça. Bon. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on serait plus nuancé, même si, bien sûr, on a le sentiment d'être un petit peu plus vrai que les autres. Hein? Mais il ne viendrait pas à l'esprit, à moins d'être des gens étroits, bornés, comme hélas on en trouve tant d'un côté que de l'autre, n'est-ce pas ? Mais de dire, eh bien, on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être, il n'y a plus aucun élément de vérité, n'est-ce pas, dans notre Église. On va dire qu'il y a des erreurs graves, des hérésies graves, il y a peu de véritables chrétiens, il y a peu de véritables enfants de Dieu, parce que la structure ne permet pas à ces gens-là de s'épanouir. Maintenant, il peut y avoir au milieu d'eux 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Bon, mais ça, voilà un raisonnement qui aurait été intolérable au XVIIe siècle pour les protestants. On était catholique, donc on était absolument à côté de la plaque. on était absolument perdus. On était dans la grande Babylone, la grande prostituée, vouée aux gémonies, et du côté évidemment catholique, on raisonnait exactement de la même manière. Donc, il y a cette position, cette situation de conflit. Conflit larvé, conflit potentiel qui demeure. Hein. Et alors, on espère bien que, d'un côté comme de l'autre, la vraie religion finira par triompher d'une manière ou d'une autre. Et bien qu'il soit minoritaire en France, les protestants n'ont pas renoncé au rêve de voir un jour la France être gagnée par la vérité protestante et se tourner vers le protestantisme. Bon, il faut dire qu'ils vont assez vite déchanter dans ce domaine, car dès 1620, donc dès l'entrée en vigueur de l'édit de Nantes, eh bien, vous comprenez, le roi ayant apostasié, un certain nombre de gens dans la noblesse vont suivre le roi dans son apostasie pour des raisons de base politique, pour faire carrière, pour se placer, n'est-ce pas ? On comprend que si le roi a adopté le catholicisme avec cette forte parole « Paris vaut bien une messe », ce qui montre la profondeur de ses sentiments religieux, entre parenthèses, n'est-ce pas ? Eh bien, un certain nombre de nobles vont dire « Non pas Paris vaut bien une messe, mais mon avancement vaut bien une messe, ma position vaut bien une messe, ma carrière vaut bien une messe ». Et alors, on assiste, dès 1620, à une véritable débandade de la noblesse protestante pour des motifs plus ou moins sordides. Et ça, c'est un coup terrible pour le protestantisme, parce que dans la société de l'époque, n'est-ce pas, poste qui était quand même encore une société marquée par le Moyen-Âge, la structure du Moyen-Âge, le garant, n'est-ce pas, du protestantisme était quand même la noblesse. C'est la noblesse qui avait pris les armes pour défendre le protestantisme. Si la noblesse maintenant fait défaut et qu'il ne reste plus qu'un petit peuple protestant, alors ce petit peuple protestant va se trouver désarmé dans une situation où, encore une fois, protestantisme, ou disons religion, et en quelque sorte parti politique, et en quelque sorte, comment dirais-je, réalité sociale se confondent et s'interpénètrent, comme c'est le cas dans la société de cette époque-là. Et alors, là, intervient un autre coup dur, n'est-ce pas, quelques années plus tard, à partir du moment où le protestantisme est amputé d'une bonne partie de sa noblesse, eh bien, c'est la chute de La Rochelle. La chute des places fortes, n'est-ce pas, qui garantissait en quelque sorte les privilèges des protestants. Nous avons vu que, justement, le fait d'obtenir des privilèges, au sens moyenâgeux du terme, n'est-ce pas, c'était avoir des garanties de ces privilèges-là. Souvent, justement, c'était des statuts particuliers qui étaient accordés à des villes. Hein. Par exemple, la Ligue des villes hanséatiques en Allemagne, on a vu ça il y a quelque temps. Pas. Donc, ici, les protestants avait comme garantie de l'édit de Nantes un certain nombre de places fortes militaires, n'est-ce pas, qui étaient en quelque sorte comme des petites républiques au sein de la monarchie française. Car finalement, on a du Moyen-Âge souvent une vision très faussée. Le Moyen-Âge n'était pas une période, comment dirais-je, de coercition. Bon, il y avait la seule intolérance qu'il y avait au Moyen-Âge était une intolérance religieuse. Mais sur le plan politique, n'est-ce pas, il y avait une très très grande variété de systèmes politiques. Il y avait une grande variété de systèmes administratifs, n'est-ce pas, avec justement cette possibilité de jouer sur des privilèges. Et il y avait donc des villes ou même des régions entières, n'est-ce pas, qui étaient de véritables républiques intégrées, n'est-ce pas, dans un tout plus ou moins vague, n'est-ce pas, mais qui leur garantissaient un très très grand degré d'autonomie. Je crois que finalement, il y avait dans certains domaines au Moyen-Âge infiniment plus de liberté qu'il n'en a de jour. Et c'est la Renaissance qui a mis fin finalement à ce statut. La Renaissance a été vraiment le point de départ de l'époque moderne qui a été marqué par non seulement l'intolérance religieuse qui était déjà le fait du Moyen-Âge mais parce que c'était la nature du catholicisme d'être intolérant. C'était pas quelque chose qui était inhérent au Moyen-Âge, au système du Moyen-Âge, à la philosophie du Moyen-Âge, mais à la philosophie de l'Église catholique, n'est-ce pas ? Mais cette philosophie de l'Église catholique, dominatrice, intolérante, centralisatrice, n'est-ce pas, va, à partir de la Renaissance, se faire sentir également sur le plan politique et aboutira donc à ce qu'on a vu en Espagne, comme on le voit ici en France, n'est-ce pas, une confusion entre le nationalisme et le religieux, et donc qui aboutira à une époque, quelques temps plus tard, à ces conflits sanglants entre États, n'est-ce pas, dont nous sortons à peine en Europe. Ça, c'est le résultat de la Renaissance. Alors, et là aussi, il faut nuancer quand on parle de la Renaissance comme la fin de l'obscurantisme, la fin de l'oppression, n'est-ce pas, de l'Église et de la religion ou des choses semblables. Ça, c'est l'image d'Épinal qui a été véhiculée par les révolutionnaires de 92, puis de 89, puis par les révolutionnaires bolcheviques de 1917, n'est-ce pas, l'idée d'un progrès ininterrompu. En fait, la Renaissance, dans un certain nombre de domaines, n'est-ce pas, est une régression par rapport au Moyen-Âge. Hein. Or, ici, justement, nous assistons à cette montée en puissance, n'est-ce pas, de l'État centralisateur. Et l'État centralisateur va être essentiellement le fait de cet esprit de la Renaissance. N'est-ce pas ? Le 14 mai, en effet, de l'année suivante, le roi Henri IV est assassiné. Et son épouse, donc, puisqu'il est son fils encore très jeune, Marie de Médicis, devient régente. Devient régente jusqu'à la majorité de Louis. Henri IV est assassiné pour des raisons religieuses. Il est assassiné, semble-t-il, par un certain Ravaillac. Bon, ça, c'est pas semble-t-il, c'est certain. Mais il est assassiné sur l'instigation des jésuites. Les jésuites qui, précisément, n'ont pas accepté l'édit de Nantes. Et ils voient dans la conversion d'Henri IV une conversion de type intéressé, politique. Ils ne croient pas à la sincérité d'Henri IV, et ils ont raison d'ailleurs. Henri IV n'était pas plus catholique qu'il n'était protestant, c'était surtout un bon vivant, n'est-ce pas ? Le ver galant qui avait de très nombreuses aventures et maîtresses et choses semblables, qui aimait la bonne vie et la bonne chair, n'est-ce pas ? Mais qui avait de fait le bon roi Henri, n'est-ce pas ? Qui était aimé parce que il avait une bonhomie naturelle, c'était un, comment dire aujourd'hui, un brave homme, hein, c'est vrai. Et un homme humain qui avait une dimension humaine, même si au point de vue foi, c'était extrêmement, extrêmement ténu. Il avait une dimension humaine, ce qui fait qu'il était aimé. Tant des catholiques que des protestants d'ailleurs, même si les protestants lui gardaient bien entendu une certaine amertume pour son apostasie. Mais enfin bon, on était conscient qu'aussi longtemps que le roi vivrait, il n'y avait pas grand péril par rapport justement à la liberté religieuse même relative dans laquelle on était installé. Alors, les jésuites, eux, ne supportent pas cette situation-là. Ils ne supportent pas que la France soit coupée en deux sur le plan religieux. Et donc, un complot est organisé pour éliminer le roi. On soudoie donc ce Ravaillac en question, qui sera le bras armé du complot, qui en subira d'ailleurs toute la rigueur dans des conditions absolument horribles, n'est-ce pas ? Il sera exécuté, vous le savez, écartelé, mais ce qu'on sait moins, c'est que, outre cet abominable supplice, il sera au préalable torturé abominablement sous les yeux de la foule par les meilleurs bourreaux, n'est-ce pas, venus de toute la France pour la circonstance et qui rivalisent, n'est-ce pas, pour montrer le raffinement de leur art, n'est-ce pas. Et le pauvre Ravaillac, n'est-ce pas, souffre des heures et des heures, les tourments les plus raffinés de l'époque qu'on puisse imaginer, on lui balance de la proie bouillante sur des plaies vives et autre chose de même ordre. Et puis, finalement, au bout de quelques heures de supplice de cet ordre-là, on l'écartèle. Quant aux véritables responsables du complot, les jésuites, il est évident qu'on s'est bien gardé d'aller creuser trop loin, n'est-ce pas, dans les choses. Justement, l'exemple du roi, le sort du roi montrait que c'était assez dangereux de toucher aux jésuites. Par conséquent, les jésuites sortent absolument indemnes de la chose. Néanmoins, assez courageusement, la régente Marie de Médicis, après la mort de son mari, confirme l'édit de Nantes. On peut dire d'une certaine manière que pour les jésuites, c'est l'échec. L'assassinat du roi n'a rien changé fondamentalement à ce qui avait donc été ici décidé par le roi. Néanmoins, à partir de ce moment-là, va commencer toute une lente érosion, n'est-ce pas, de l'édit de Nantes, qui va débuter par exemple, des querelles, pour vous montrer le niveau, au sujet de la fête Dieu. La fête Dieu, c'est une fête au cours de laquelle on promène en grande pompe l'hostie consacrée, n'est-ce pas, et en procession, chacun se prosterne. Bon, les Huguenots ont obtenu de l'édit de Nantes, n'est-ce pas, la possibilité de ne pas se découvrir au moment des processions, de ne pas se prosterner devant le Saint-Sacrement et surtout de ne pas décorer leur maison. On doit décorer la maison avec des fleurs, etc., sur le passage du Saint-Sacrement. Bon. Les Huguenots, évidemment, s'en abstiennent et on commence à leur chercher querelle pour cela. C'est des manifestations spontanées contre les Huguenots qui ne veulent pas décorer leur maison pour le passage de la fête de Dieu. Et ça donne lieu parfois à des échauffourées qui dégénèrent en querelle. Bien, maintenant, il faut dire que du côté protestant, on a parfois aussi la tête un peu chaude dans ce genre de réalité, et les protestants ne se font pas faute, n'est-ce pas, de parfois provoquer leurs voisins catholiques d'une manière ostensible. Au lieu de rentrer discrètement chez eux sur le passage du Saint-Sacrement, ils sortent ostensiblement, chapeau sur la tête, et debout, n'est-ce pas, quand tout le monde est à genoux, ils vont parfois même jusqu'à faire des plaisanteries d'un goût douteux sur le passage du Saint-Sacrement. Enfin bref, ils provoquent quoi ? Ils provoquent, et quelquefois, donc, forcément, il y a des... Il faut dire que les protestants, à cette époque-là, c'est dommage en France, n'est-ce pas, ils sont plus antipapistes que véritablement protestants. On est contre, n'est-ce pas ? On n'est pas pour. C'est toujours le danger dans un temps, n'est-ce pas, de controverse, de polémique, n'est-ce pas, d'être contre plutôt que pour. Et par exemple, si vous lisez les sermons d'époque qui sont prononcés dans les temples, c'est de la polémique anticatholique tout du long, n'est-ce pas. On ne cherche pas à édifier le peuple de Dieu, l'amener à plus de sainteté, à plus de... Non, on attaque, n'est-ce pas, on attaque les dogmes catholiques, voire parfois d'ailleurs en les caricaturant quelque peu, n'est-ce pas, pour en ajouter un peu. Et alors, n'est-ce pas, il y a cette espèce de durcissement de part et d'autre, n'est-ce pas, sur des positions. Alors, on en attaque le pape qui incarne les turpitudes de l'Église catholique, le cléricalisme, les choses semblables. Et il n'y a pas, n'est-ce pas, de véritable épanouissement de la piété. À cette époque-là, il y a plutôt même, on pourrait dire, un dessèchement de la piété. Alors ça, forcément, ce n'est pas non plus sans conséquence sur le plan spirituel quand on arrive à une évolution de ce type-là. Et c'est alors que le pouvoir va essayer de réduire d'abord les privilèges politiques des protestants. Ce sera le fait du Premier ministre, c'est pas le cardinal Mazarin, il y a deux cardinaux, le premier c'était Richelieu, qui alors lui a une vision très, comment dirais-je, personnelle et très moderne pour l'époque, n'est-ce pas, de l'État. Il est d'un de ceux qui veut faire la grandeur de l'État pour occuper le vide laissé par l'Espagne. Il le fait à plusieurs niveaux, d'abord dans l'expansion coloniale française, en développant donc cette expansion coloniale, notamment aux Amériques, Canada, ce qui reviendra plus tard, la Louisiane, ça. Et puis, deuxièmement, en créant un État centraliste fort, à l'image du pouvoir espagnol. D'autre part, Richelieu est un homme d'Église, bien que lui aussi, sur le plan de la foi, il ne faut pas lui en demander trop, n'est-ce pas ? Il ne persécutera pas les protestants, d'ailleurs, pour des raisons religieuses, à la limite, il s'en fiche, n'est-ce pas ? Mais plutôt, n'est-ce pas, parce qu'ils sont, dans leur manière d'être, dans leur état d'esprit, et puis dans leur organisation, un obstacle à la centralisation de l'État. En fin de compte, Richelieu rêve de construire l'État français sur le modèle du centralisme romain, centralisme catholique romain. Et l'absolutisme royal, qui n'existe pas encore à cette époque-là, mais qui va émerger justement à cette période, pour culminer avec Louis XIV, est l'exact pendant politique de l'absolutisme papal. De la même manière que le pape est un souverain absolu sur toutes les affaires de l'Église, que tout est centralisé, tout aboutit à lui et tout part de lui. De la même manière, sur le plan politique, le roi doit être la clé de voûte du système centralisé. Le roi doit avoir les pouvoirs les plus étendus, il doit tout contrôler, il doit tout diriger dans les moindres détails. Et ce sera le but de Richelieu de forger donc cet État centralisé français qui va perdurer, et ce sera le premier État en Europe qui aura cette organisation centralisée extrême. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'aucun système politique n'a réussi à revenir, sur ce chef-d'œuvre de ce cardinal de génie qu'était Richelieu. Ni la République française, ni Napoléon, ni personne, ne réussira à casser le centralisme français. Et ce centralisme est donc calqué en tout point sur le système catholique romain. Mais alors, évidemment, il va y avoir des gens qui vont faire les frais de cette centralisation excessive dont nous souffrons. Il suffit de voir d'ailleurs une carte des routes en France ou bien des chemins de fer, n'est-ce pas ? C'est une véritable toile d'araignée où tout converge vers Paris, n'est-ce pas ? On a parlé de Paris et du désert français. Il y a Paris et la province, parce que Paris, c'est la capitale, c'est le centre, n'est-ce pas ? Centre névralgique d'où tout est commandé. Alors, ça donne évidemment une force extraordinaire, parce que c'est comme une armée en campagne. L'État français va être comme un corps qui obéit au doigt et à l'œil, aux ordres du cerveau. Et donc, ça va lui donner un impact formidable, tant sur le plan militaire que sur le plan diplomatique, que sur le plan économique, que sais-je encore. Et donc, effectivement, en l'espace de plusieurs générations, la France occupera la place de l'Espagne, donc comme première puissance mondiale. Ça, à ce niveau-là, ça va être une réussite. Maintenant, il sème à long terme, pour le long terme, des germes d'un mal qu'un auteur français a qualifié de mal français, et dont nous souffrons encore jusqu'à aujourd'hui, cette excessive centralisation de la France. Alors, ceux qui vont faire les frais de l'opération, ce sont d'abord essentiellement les protestants. Les protestants qui, eux, justement, sont le contraire de ça. Le système protestant, l'esprit protestant, est tout à fait aux antipodes de cette vision centraliste. Les protestants sont, dans le système presbytérien synodal, les précurseurs de la démocratie. Or, justement, la démocratie va naître dans les pays protestants à la fin du siècle, à ce même siècle. Il va naître justement de l'esprit protestant, l'esprit de dialogue, l'esprit qui est tout à fait aux antipodes, de la centralisation. Et précisément, les places fortes protestantes, dans l'Ouest essentiellement, donc depuis Saumur, La Rochelle, Bourgogne-Niort va sauter assez vite, ça va être remis en question assez vite, Saint-Mexan aussi. Finalement, ne reste plus au début de la Régence, que La Rochelle dans l'Ouest, qui est une place de sécurité. Une place de sécurité dans laquelle les Huguenots s'administrent même, dans laquelle ils ont le droit d'entretenir des troupes qui sont le garant de leurs privilèges. Or, c'est à ça justement que Richelieu veut s'en prendre. Il veut faire en sorte que les protestants cessent d'avoir la possibilité de se défendre et qu'ils soient entièrement remis au bon vouloir du roi, au bon vouloir du pouvoir, pour ce qui est de leur liberté. Donc, il ne remet pas en question la liberté, mais il remet en question les conditions, les garanties de la liberté huguenote. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que la plupart des historiens français, sauf Michelet qui a été le premier donc, qui a vu ce problème, mais jusqu'à aujourd'hui, même des historiens modernes, je me souviens quand moi j'étais enfant à l'école, n'est-ce pas, un rare protestant, unique protestant dans la classe dans laquelle je me trouvais, n'est-ce pas. Alors, la maîtresse prenait toujours bien soin de dire « Richelieu sont les plus protestants », non pas parce qu'ils étaient protestants, mais parce qu'ils formaient un État dans l'État. Et ça, vous trouviez ça dans tous les manuels d'histoire d'époque, n'est-ce pas ? Richelieu sont les protestants parce qu'ils sont un État dans l'État. Ça dépend ce qu'on entend par État dans l'État. Si on entend par là que les protestants refusaient le centralisme vers lequel évoluait l'État français, alors oui. Si par État dans l'État, on entend que c'était des gens qui n'étaient pas loyaux au pouvoir, des gens qui avaient des visées sécessionnistes, alors non. Tout ce que demandaient les protestants, c'était une autonomie à l'intérieur de l'État français. Et c'était cette autonomie qui était en cause. C'était cette autonomie qu'on leur refusait. Non seulement autonomie sur le plan religieux, mais également autonomie sur le plan social. Et c'était ça qu'on leur refusait. Donc, va commencer une tentative de s'en prendre à une autre place forte du protestantisme qui monte au banc dans le Midi. Bon, là, il y a échec. L'armée du roi doit reculer devant Montauban. Donc, en 1626, débute le siège de La Rochelle lui-même. La Rochelle est défendue notamment par les Rouens, mais très vite, il est évident que, malgré toute la bravoure de l'armée protestante qui est à l'intérieur de la ville, La Rochelle ne pourra pas tenir seule. Et c'est alors qu'on compte essentiellement sur les Anglais. Les Anglais, puissance protestante, proche, très proche, n'est-ce pas ? Des émissaires sont envoyés et l'Angleterre promet effectivement une aide. Plusieurs reprises, les voiles anglaises apparaissent à l'horizon. Richelieu, qui a développé une marine importante pour ses visées impérialistes, n'est-ce pas ? A cantonné une puissante escadre aux environs de La Rochelle, précisément pour prévoir une intervention anglaise de cette nature. Les Anglais n'insistent pas et finalement, après quelques coups de canon tirés à distance respectueuse de l'escadre française, ils font demi-tour et ils abandonnent les Rochelais à leur triste sort. Alors un siège horrible va s'installer pendant 2 ans à La Rochelle, où très vite les vivres font défaut et la famine s'installe dans la ville. Et là, on cite, n'est-ce pas, la parole historique de Messire Jean Guiton, qui était le maire protestant de La Rochelle. Et alors que la situation était quasi désespérée déjà dans la ville de La Rochelle, où des milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, étaient morts de faim déjà, pas, la population était réduite presque plus de moitié, n'est-ce pas, finalement plus de moitié, peut-être 3/4, n'est-ce pas, la situation. Alors, certains, rassemblés dans l'hôtel de ville de La Rochelle, autour d'une table de marbre, qui servait de point de ralliement du conseil municipal de La Rochelle, ont commencé à évoquer la possibilité peut-être de prendre langue avec l'ennemi pour voir quelles seraient les conditions d'une capitulation. Alors, Messire Guiton, n'est-ce pas, saisi d'une indignation vertueuse, a sorti son poignard, a donné un grand coup de poignard dans la table de marbre qui s'est percée, n'est-ce pas ? On voit encore la marque du coup de poignard, n'est-ce pas, de Messire Guiton, et disant qu'il percerait le cœur du premier qui parlerait de se rendre avec ce même poignard, de la même manière qu'il venait de percer cette table de marbre. Et tout le monde est resté de marbre, bien sûr, n'a pas voulu à connaître le triste sort de cette table. Donc, on a continué le siège. On a continué le siège jusqu'au 28 octobre 1626. il a bien fallu quand même se rendre à l'évidence, c'est que toute résistance était devenue vaine. Donc, la place de La Rochelle s'est rendue. Les survivants ont eu la vie sauve, mais à condition d'évacuer la ville. Le temple a été démoli, n'est-ce pas ? On a chanté le Te Deum, et donc la ville est devenue catholique. Dans la même foulée, on a également démoli les autres villes fortes, Niort, Saint-Mexant et Sainte. Et puis, la guerre a encore duré quelque temps en Languedoc. Finalement, Montauban elle-même est tombée. Ça a été donc la fin de la puissance politique de la France, des protestants. Et donc, si vous voulez, les protestants, voyez leur garantie religieuse, leur liberté religieuse encore garantie, mais uniquement par la loyauté du roi. Alors, vous voyez ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que maintenant, plus rien ne s'opposait au grignotage de l'édit de Nantes et finalement à son élimination. Un an plus tard, en 1629, le roi confirme l'édit de Nantes dans ce que on appelle l'édit d'Alès, la paix d'Alès, qui met fin finalement à cette nouvelle guerre de religion qui ne disait pas son nom, mais qui était en fin de compte une guerre de religion. Il y a donc deux édits, un édit à Nîmes et un édit à Alès, au cours duquel il est confirmé que les protestants perdent toute leur place forte, toute leur organisation militaire. Autrement dit, les protestants sont désormais sans défense, livrés pieds et poings liés à l'arbitraire et au bon vouloir du pouvoir royal. Et là, si vous voulez, c'est une entorse grave à l'édit de Nantes qui leur reconnaissait justement ces places fortes. Déjà donc, on peut dire que l'édit de Nantes est vidé par la paix d'Alès de 50% de sa substance, et bien évident que les 50% qui restent ne tiennent plus qu'un fil. On verra la prochaine fois, donc, comment cela sera. Est-ce que vous avez des questions ?